Bonjour à tous. Je n'ai pas besoin de vous dire que la fête des tabernacles revêt une signification particulière pour nous, le peuple de Dieu, et à l'insu de toute l'humanité, d'ailleurs. Ce qui les attend, ils ne peuvent même pas l'imaginer. Il y a des éléments du plan de Dieu que nous-mêmes ne pouvons même pas comprendre. Nous regardons souvent en arrière, en particulier pendant la fête des tabernacles, vers l'Israël physique pour tirer des leçons précieuses en tant qu'Israël spirituel de Dieu. C'est ce que nous faisons pendant la fête des tabernacles. Nous pouvons certainement tirer de nombreuses leçons spirituelles de l'Israël physique tout au long de l'année, mais en particulier pendant la fête des tabernacles. Je voudrais que vous vous arrêtiez un instant pour réfléchir, tout comme l'ancien Israël, ainsi que Christ lui-même et les époques de l'Église qui nous ont précédés. La célébration de la fête des tabernacles nécessite deux actions physiques. Nous faisons beaucoup de choses pendant la fête, mais il y a deux actions physiques principales que nous accomplissons en tant que peuple de Dieu lorsque nous célébrons la fête des tabernacles. La première, ou plutôt la deuxième dans l'ordre, et l'acte physique de séjourner dans des cabanes ou des habitations temporaires. Vous conviendrez tous que cet acte comporte de grandes leçons spirituelles. Le fait de séjourner dans des lieux temporaires témoigne de notre nature temporaire actuelle et du fait que nous attendons de revêtir un tabernacle différent qui sera permanent et éternel. L'autre action physique que vous verrez est également essentielle. Et cette action physique accomplit, je dirais, deux choses. Premièrement, elle prouve quelque chose à Dieu à votre sujet, et deuxièmement, elle montre au monde quelque chose qu'il a désespérément besoin de voir. Elle prouve quelque chose à Dieu à votre sujet, et elle montre au monde quelque chose qu'il a désespérément besoin de voir lui-même. Quel est cet acte physique? Que prouve-t-il à Dieu à votre sujet? Et que permet-il au monde de voir? Eh bien, nous espérons répondre à ces questions aujourd'hui. Passons au Deutéronome 14. Deutéronome 14. Un verset que nous avons lu maintes et maintes fois. Nous le connaissons tous très bien, mais je voudrais me concentrer sur plusieurs phrases et un mot qui vont nous donner un indice sur cette action physique. Deutéronome 14. Verset 22, tu donneras la dîme de tout le produit de tes semences, que ton champ produit chaque année, et tu le mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Verset 24, si le chemin est trop long pour toi, si tu ne peux pas le transporter, ou si le lieu est trop éloigné de toi, que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, tu le convertiras en argent, tu lieras l'argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Dans ce commandement, dans ces versets qui traitent de la participation à la fête, il y a cinq expressions ou mots que je voudrais que nous examinions ou que nous voyions très clairement. Au verset 23, il est dit, dans le lieu. Au verset 24, vous pouvez lire, le chemin est trop long, le lieu est trop éloigné, et le mot là également. Enfin, au verset 25, il est dit, vers le lieu. Ce sont les expressions et les mots sur lesquels je voudrais que nous nous concentrions, car ils font allusion à l'action que vous avez entreprise pour prouver quelque chose à Dieu à propos de vous-même, et ils permettent au monde de voir quelque chose dont il a désespérément besoin. 1 Roi chapitre 8. 1 Roi chapitre 8. Maintenant, dans le chapitre 6, le roi Salomon commence la construction du temple, qui est achevée à la fin du chapitre 7. Nous allons reprendre dans 1 Roi chapitre 8, et nous allons sauter un peu dans ce chapitre, mais nous commencerons au verset 1. Salomon rassembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs des familles des enfants d'Israël, afin de faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel de la ville qui est à Sion. Nous avons ici un rassemblement massif de personnes. C'est la scène qui se déroule, telle qu'elle est décrite ici. Verset 2. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent devant le roi Salomon à la fête de la montagne d'Étani, qui a lieu au septième mois, et nous connaissons ce mois sous le nom de Tishrei. Passons au verset 62. Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel, et Salomon offrit des sacrifices d'action de grâce, qu'il offrit à l'Éternel. 22002. Imaginez cela. Cela équivaut, je pense, à peu près à la taille de Woodsworth, où se trouve le siège social. Je pense que Woodsworth est légèrement plus grand que cela, mais 22 000 bœufs et 120 000 moutons. Le roi et tous les enfants d'Israël consacrèrent la maison de l'Éternel. Le même jour, le roi sanctifia le milieu de la cour qui était devant la maison de l'Éternel. Car c'est là qu'il offrit les holocaustes, les offrandes et la graisse des sacrifices de paix, parce que l'autel d'airain qui était devant l'Éternel était trop petit à ce moment-là. Une entreprise colossale, une effusion massive de dons à Dieu, l'adorant à travers des offrandes. Verset 65. À cette époque, Salomon organisa une fête, et tout Israël avec lui, une grande assemblée, dit-il. Depuis l'entrée de Hémès jusqu'au fleuve d'Égypte, devant le Seigneur notre Dieu, pendant 7 jours et 7 jours, soit 14 jours. Quelle célébration cela a dû être! L'occasion était si joyeuse qu'ils ont organisé deux fêtes. Imaginez un peu. Tout ce que Dieu a à faire, c'est de me donner un ordre. Cela ne me pose aucun problème. Je pense que c'est un ordre que nous serions tous prêts à obéir. Le huitième jour, verset 66, il renvoya le peuple, qui bénit le roi et s'en alla vers ses tentes, encore une fois, les tabernacles, joyeux et le cœur content. En d'autres termes, ils terminèrent la fête comme ils étaient censés la commencer, en se réjouissant devant Dieu et en se réjouissant après s'être réjouis avec Dieu. Il y a là une leçon en soi. Pourquoi était-il joyeux et le cœur content? Pour tout le bien que le Seigneur avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple. Maintenant, mes frères, lorsque nous mettons ensemble le verset 2 et les versets que nous venons de lire dans les versets 62 et 66, le contexte est sans aucun doute la fête des tabernacles. Année après année, Dieu veut que nous associons la fête des tabernacles à un acte physique particulier et important, qui comporte des leçons profondes pour nous tous. Un acte que Dieu veut que nous, son peuple, apprenions lors de la fête des tabernacles, mais aussi que nous mettions en pratique chaque jour de notre vie. Revenons au verset 22. Salomon se tient devant l'autel du Seigneur en présence de toute l'assemblée d'Israël et étend ses mains vers le ciel. Puis au verset 51. Revenons en arrière. J'ai dit que nous allions faire des allers-retours dans cette partie de l'Écriture. Il parle maintenant d'Israël. Car ils sont ton peuple et ton héritage. Réfléchissez à cela. Dieu a-t-il besoin d'hériter de quoi que ce soit? Quel titre merveilleux que d'être appelé l'héritage de Dieu, que tu as fait sortir d'Égypte, ce que représente la fête des tabernacles, du milieu de la fournaise de fer. Puis, au verset 53, Salomon dit ce qui suit en parlant d'Israël sous la direction de Moïse. Le même Israël qui, dans Deutéronome 14, avait reçu l'ordre d'aller à la fête année après année. Vous vous souvenez des phrases dont nous avons parlé dans ce mot? Car tu les as séparés de tous les peuples de la terre, pour être ton héritage. Le voici à nouveau, comme tu l'as dit par la bouche de Moïse, ton serviteur, lorsque tu as fait sortir nos pères d'Égypte, ô Éternel, notre Dieu. Frères et sœurs, la séparation. être séparés. Cet acte physique unique qui consiste à nous séparer est l'un des aspects les plus monumentaux de notre appel. La séparation. Nous le verrons au fur et à mesure. Dieu nous commande de nous séparer physiquement chaque automne, pour nous rappeler de nous séparer spirituellement de tous les peuples de la terre chaque jour de notre vie. Dieu veut que nous soyons son héritage. Des milliards de personnes ont vécu sur cette planète au cours des 6000 dernières années, et nous faisons partie des rares privilégiés qui ont été appelés à comprendre l'importance de la séparation physique et spirituelle. Lévitique, chapitre 20. Séparation, mes frères. Un mot simple mais puissant que nous allons examiner. Que prouve cette séparation à Dieu? Que permet cette séparation au monde de voir? Dans le chapitre 20 du Lévitique, au cours des 19 chapitres précédents, et c'est important, nous n'allons pas nous attarder sur ce point, Dieu énonce loi après loi après loi. Il les donne à Israël par l'intermédiaire de Moïse, le chef, et le chapitre 1, je pense, traite des holocaustes. Juste pour vous donner un aperçu de ce que couvrent les 19 chapitres précédents. Au chapitre 2, les offrandes de céréales. Au chapitre 3, les offrandes de paix. Au chapitre 4, les offrandes pour le péché. Au chapitre 5, les offrandes pour la culpabilité. Au chapitre 6 à 8, les lois concernant le sacerdoce. Au chapitre 11, les animaux purs et impurs. Au chapitre 13 et 14, les lois sur la lèpre. Au chapitre 15, les écoulements corporels. Un chapitre entier presque entièrement consacré aux écoulements corporels. Pensez à l'impact que cela a eu sur eux en termes de santé et d'hygiène. Même ce niveau de détail, Dieu le leur a donné. 16. Le chapitre 16 traite de l'expiation, le 17, de l'interdiction de manger du sang. 18. Dieu traite des relations sexuelles, comment les avoir d'une manière pieuse. Il existe des règles et des lois à ce sujet. Puis, au chapitre 19, Dieu dit à Moïse de dire au peuple que le Seigneur notre Dieu est saint, renforçant ainsi les quatre premiers commandements des 10 commandements. Puis Dieu dit à Israël dans ce même chapitre 19, le chapitre précédent, celui que nous allons examiner, Dieu dit à Israël d'aimer son prochain comme soi-même. Ce qui sous-tend les 6 derniers commandements des 10 commandements. Ce qui nous amène au chapitre 20, mes frères, qui énonce les punitions pour avoir désobéi aux lois de Dieu. C'est logique. Verset 22, vous observerez donc toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique, afin que la terre où je vous fais entrer pour y habiter ne vous vomisse pas et ne vous rejette pas, et que vous ne marchiez pas selon les coutumes des nations que je chasse devant vous. Car elles ont commis toutes ces choses, et je les ai abhorrées, mais j'ai dit que vous hériteriez de leur pays, et je vous le donnerai en possession, un pays où coule le lait et le miel. De merveilleuses promesses que Dieu a faites, mais qui sont conditionnelles. Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous a séparé, une fois de plus, des autres peuples, et il l'a fait pendant 40 ans. Il a physiquement séparé le peuple d'Israël des autres nations pendant 40 ans. Pourquoi? Vous ferez donc distinction entre les animaux purs et les animaux impurs, entre les oiseaux purs et les oiseaux impurs. Vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez, mes frères. Voilà. Vous ferez donc la distinction, et vous ne rendrez pas vos âmes abominables, ni ne contaminerez vos corps avec des animaux ou des oiseaux impurs, ou toutes sortes de créatures rampantes sur le sol, que j'ai séparées de vous comme impures. Mes frères, c'est un thème récurrent dans toute la Bible, la séparation. Verset 26. Vous serez saints pour moi. Car moi, le Seigneur, je suis saint, Et je vous ai séparé des autres peuples, afin que vous soyez à moi. Dieu nous veut, il nous veut comme héritage, et grâce à son plan et à ses actions magnifiques qu'il a orchestrées dans chacune de nos vies, il a trouvé un moyen de nous séparer des peuples du monde. Dieu a physiquement séparé Israël de l'Égypte et a marché avec eux. C'était la seule façon dont il pouvait le faire, pendant 40 ans. Pourquoi? Si vous vous souvenez, avant ces 40 ans, les enfants d'Israël ont passé des centaines d'années en captivité, apprenant et s'immergeant dans les voies de l'Égypte, qui est un type du monde. Pensez avant que vous ne soyez appelés, à quel point nous étions immergés dans les voies du monde. Certains d'entre vous ont grandi dans l'Église, mais beaucoup d'entre vous ne l'ont pas fait. Dieu a été avec eux pendant 40 ans, essayant d'amener son peuple à séparer son cœur des coutumes des Égyptiens, à séparer son esprit des coutumes des Égyptiens, afin de montrer la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Encore une fois, il est question ici de la bête, mais vous pouvez appliquer cela à n'importe quel aspect de notre vie chrétienne, afin de montrer la différence entre une vie sainte et une vie impie. Il me suffit de regarder mon ancien moi et mon nouveau moi, comme le décrit la Bible. Il vous suffit de repenser à votre ancien moi, puis à votre nouveau moi. Dieu leur a donné chapitre après chapitre des commandements, des statuts et des jugements, les lois de Dieu. Cela garantirait que cela resterait le cas, qu'ils continueraient à être séparés. Il leur a ordonné de ne pas marcher selon les mœurs des nations dans lesquelles ils allaient entrer. Dieu était sur le point de les relâcher parmi la population générale, si vous voulez, mais il voulait voir un peuple mettre en pratique ce qu'il essayait de leur enseigner depuis 40 ans, à savoir rester séparés dans leur cœur et dans leur esprit de l'impiété, des voies du monde. Est-ce différent pour nous, frères et sœurs? En fait, l'exigence est encore plus grande pour nous. Pensez à la récompense qui nous attend. Nous ne parlons pas seulement de lait et de miel. Nous parlons de la vie éternelle. En parlant de séparation, repensez à l'expiation, qu'avons-nous fait pendant 24 heures? Nous nous sommes séparés physiquement de l'eau et de la nourriture. Pourquoi? Afin de pouvoir être plus proche de Dieu. Encore une fois, la séparation. De même, l'acte physique de nous séparer pendant 8 jours de nos maisons, de nos lieux de travail, de notre famille, de nos amis et de nos collègues. Être ici à la fête devrait nous enseigner l'importance de rester séparés pendant le reste de l'année, pendant les autres jours de l'année. Acte, chapitre 7. Nous allons examiner 2 exemples puissants. Dieu a demandé à ces 2 personnes de se séparer, et elles ont toutes 2 prouvé la même chose que ce qu'il nous est demandé de prouver à Dieu. La même chose qu'elles ont prouvé, nous devons la prouver. Examinons d'abord Abraham. À la suite du chapitre précédent, nous avons lu que les Juifs soudoyaient un groupe d'individus pour accuser faussement Étienne de blasphémer contre Moïse et Dieu. Étienne est amené devant le grand prêtre qui lui demande ici, au verset 1, « Est-ce vrai? Est-ce vrai ce que ces individus disent à ton sujet? As-tu blasphémé contre Moïse? As-tu blasphémé contre Dieu? » Étienne répondit, « Homme, frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie et lui a dit, « Sors d'ici. Vous entendez la voix tonitruante de Dieu, ces paroles qui viennent de lui dans mes oreilles. Sors d'ici. Sors de ton pays et de ta famille, et viens dans le pays que je te montrerai. » En d'autres termes, sépare-toi de ton pays, de tes proches, et deviens un étranger. Ma femme et moi avons beaucoup déménagé au fil des ans. Nos 4 filles sont toutes nées en République dominicaine, et je pense que ma fille aînée avait environ 5 ou 6 ans lorsque j'ai été sollicité, ou plutôt embauché par une entreprise pour travailler à Washington, DC. Nous avons pris toutes nos quatre filles, et nous avons déménagé à Washington, DC. Nos jumelles cadettes avaient alors environ 3 ans. Je pense qu'elle avait à peu près cet âge-là, et elle ne parlait que l'espagnol. Nos deux filles aînées fréquentaient une école bilingue anglaise-espagnole. Elles en connaissaient un peu, mais lorsque ma femme leur parlait en anglais, parce qu'elles devaient aller à l'école après cet été-là, elles répondaient « No me habla así ». Cela signifie « Ne me parle pas comme cela ». « Ne me parle pas dans cette langue ». Elles refusaient d'apprendre de leurs parents. Ce que nous avons fait, étant plus malin qu'elles, c'est que nous avons engagé Mikamu et Donald Duke pour leur enseigner l'anglais, et pendant les mois qui ont suivi, elles ont appris l'anglais, enseigné par Mikamu et Donald Duke. Apparemment, ils sont de meilleurs professeurs d'anglais que nous. Juste au moment où ils commençaient à s'installer, à grandir et à se faire des amis, nous les avons emmenés en Angleterre et les avons déposés à cet âge tendre où les hormones commencent à se manifester. Si vous avez élevé des filles, Monsieur Jackson, je pense que c'est le cas, vous savez qu'à cet âge-là, cela peut être difficile. Elles ont dû apprendre une autre langue, car en Angleterre, on ne parle pas le même anglais que nous. Ces mêmes jumelles ont pris l'accent de Winnie. Oh, cela a été difficile de s'y habituer. Juste au moment où elles entraient au lycée, notre fille aînée était sur le point d'entrer en première année, nous les avons reprises et emmenées dans l'Ohio, pas à Washington, DC, ni en Virginie du Nord, et nous les avons déposées là-bas. Certains d'entre vous savent ce que peut être le lycée de nos jours. Ce n'est pas drôle quand on est étranger. À maintes reprises, nos filles ont dû être des étrangères, mais Abraham a choisi d'être un étranger. Il avait le choix. Qu'est-ce que ces actions de séparation ont prouvé à Dieu? Examinons de plus près une autre façon dont Abraham s'est séparé. Allons à Genèse 22. J'aime souvent parler des versets qui précèdent, car ils fournissent le contexte. Le chapitre 21 raconte la naissance d'Isaac et la protection de Dieu pour Agar et Ismaël après leur expulsion à la demande de Sarah. Nous arrivons au verset 1 du chapitre 22. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Abraham répondit « Maître, voici ». Il dit, « Prends ton fils, ton unique fils, Isaac, que tu aimes, et va au pays de Morija. » Il y a évidemment une raison à cela, mais Dieu lui dit en substance, « Sépare-toi de ta famille, de tes amis et des autres personnes qui vivent avec toi, car je ne pense pas que ce que je vais te demander serait approuvé par ta famille ou tes amis. » En d'autres termes, tu dois t'éloigner, car tu vas devoir prendre une décision importante, et je ne veux pas que ta famille et tes amis influencent ta décision. Je veux qu'une seule voix s'exprime dans ta vie, et non pas une multitude de voix qui te disent ceci ou cela, contrairement à ce que je vais te dire. Voici ce qu'il dit, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Ne te contente pas de lui enfoncer un couteau dans le corps jusqu'à ce qu'il meure. Je veux que tu le brûles. Réfléchis bien à cela. C'est le plus grand exemple d'Abraham qui s'est séparé pour prouver quelque chose à Dieu. Dieu ne demandait pas seulement à Abraham de se séparer physiquement de sa maison, de sa richesse, de sa famille élargie. Il demandait maintenant à Abraham de se séparer physiquement de son fils unique, celui qu'il aimait tendrement, Isaac. C'est inimaginable pour moi. Nous connaissons bien cette histoire. Dieu ne l'a jamais laissé faire cela. C'était une épreuve. Une épreuve du cœur et de l'esprit. Abraham aurait accepté de la subir, car nous lisons plus loin dans l'Épître aux Hébreux qu'il savait qu'il avait affaire au Dieu de la résurrection, et que Dieu pouvait le ressusciter plus vite qu'Abraham ne pouvait tuer son propre fils. Verset 10. Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Il a certainement agi. Ce n'est pas qu'il y pensait. Il passait à l'action. L'ange du Seigneur, et nous savons qu'il s'agit du Christ, appela Abraham du ciel et dit, « Abraham, Abraham », et il répondit, « Maître, voici. » Il dit, « Ne porte pas la main sur cet enfant. Ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu. Ce n'est pas le but de mon message. Ce n'est pas ce que nous essayons de prouver à Dieu, mais cela s'applique certainement à la fée des tabernacles. Puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique fils. Ce que Dieu dit, c'est, je sais que tu es prêt à te séparer de ton enfant et à le remettre entre mes mains, sous ma garde. Verset 15. L'ange du Seigneur appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, « Je jure par moi-même, dit le Seigneur, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Il est important que nous nous concentrions sur ce mot. Comme les étoiles du ciel et le sable sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Beaucoup d'entre vous pensent maintenant qu'il s'agit d'Isaac, n'est-ce pas? C'est la postérité dont il parle. Je suppose que c'est en partie vrai, mais avant d'en arriver là, nous voyons cela comme une épreuve de foi, n'est-ce pas? À juste titre, nous voyons cela comme une épreuve de foi, mais était-ce tout ce qu'Abraham prouvait à Dieu à ce moment-là? Considérez ceci. De nombreuses religions disent voir l'importance de la foi dans leur vie, comme nous le faisons, mais ces mêmes religions ne comprennent pas quelque chose qui doit aller de pair avec la foi, quelque chose que les vrais serviteurs de Dieu doivent prouver à Dieu. Vous l'avez fait en venant là où Dieu a choisi de placer son nom. Même si le chemin était long, vous vous souvenez? Même si l'endroit était loin de chez vous. Dieu nous a fait les mêmes promesses merveilleuses qu'il a faites à Abraham, et même plus, et la plus grande de ses promesses est la vie éternelle. Pour recevoir cette promesse et toutes les autres, Dieu n'a demandé à aucun d'entre nous de sacrifier un de nos enfants, pas un seul. Il nous promet toujours la vie éternelle. Réfléchissez-y, mais il nous demande de prouver quelque chose de plus que la foi ou la vie éternelle. Qu'est-ce qui pourrait être aussi important que la foi? L'ange du Seigneur lui a dit que Dieu avait juré par lui-même que la descendance d'Abraham, c'est-à-dire Isaac, n'est-ce pas? Ou peut-être pas, serait multipliée. Dieu a promis à Abraham, en jurant par lui-même, que cette descendance, Isaac, n'est-ce pas, deviendrait innombrable. Dieu promet ici que cette descendance remporterait des victoires dans les batailles contre ses ennemis, Isaac, n'est-ce pas? Mes frères, Dieu promet que ces mêmes promesses nous appartiennent parce que, eh bien, nous allons le lire. Galates 3. Restez à cette page. Allons à Galates 3. Ne perdez pas votre page. Nous y reviendrons dans une minute. Si Isaac n'était pas la descendance à laquelle l'ange du Seigneur faisait référence, alors à qui faisait-il référence? Verset 16, Galates 3. Ce n'est pas à Abraham mais à sa descendance, voilà, que les promesses ont été faites. Il dit non, et à des descendants, au pluriel. Comme pour plusieurs, au pluriel. Comme pour un seul, et à ta postérité, oh, voilà, qui est Christ. En substance, bien qu'Isaac soit inclus et que nous soyons inclus, la postérité mentionnée ici était Jésus-Christ. Verset 26, car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la même promesse. Nous savons maintenant, d'après les Écritures, que ceux qui appartiennent à Christ sont la postérité d'Abraham et les héritiers de ses merveilleuses promesses, y compris la vie éternelle, mais Dieu étend sa bénédiction au-delà d'Abraham, de ses descendants et de ceux qui sont sa postérité en Christ. Revenons à Genèse 22, où nous en étions. Les bénédictions de Dieu s'étendent au-delà de Christ, au-delà de nous. Lisons ce qui est écrit au verset 18, « En ta postérité, nous avons déjà établi, c'est-à-dire Christ en nous, toutes les nations de la terre seront bénies. » Pourquoi ? Voici pourquoi, mes frères, parce que tu as obéi à ma voix. L'acte de séparation envers Dieu prouve votre volonté d'obéir, d'être obéissant. Hébreux chapitre 11. La foi est l'un des éléments les plus discutés de notre vie, ainsi que dans d'autres religions, y compris les fausses versions du christianisme. La foi, 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 la foi. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir la foi. La foi, la foi, la foi, la foi. Nous pouvons même nous dire parfois, je plais à Dieu parce que j'ai la foi. Je crois en Dieu. Je crois en ses promesses. Entendez certaines personnes parler comme si elles étaient déjà intronisées au panthéon de la foi. Elles préparent leur discours d'acceptation devant le tribunal de Christ, parce que j'avais la foi. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, au verset 4, mentionne Abel, au verset 5, Enoch, au verset 7, Noé, puis au verset 8, par la foi, voilà, il n'y a rien de mal à cela, c'est puissant. Abraham, lorsqu'il a été appelé à partir, à se séparer d'un endroit pour aller vers un autre, voilà, encore une séparation, vers un endroit qu'il devait ensuite recevoir en héritage, il a obéi. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux contient les mots obéi, obéissance et partie, séparation, en raison de l'obéissance à Dieu. La séparation dans notre vie doit être un acte d'obéissance à Dieu. Nous pouvons nous séparer de tant de façons, mais si ce n'est pas dans l'obéissance à Dieu, cela ne sert à rien. Il ne savait même pas où il allait. Réfléchissez-y. On lui a demandé de se séparer de tous cela, et il n'avait aucune idée qu'il cherchait une ville qu'il n'avait jamais rencontrée, jusqu'à la toute fin. Mes frères, son exemple nous enseigne que quitter nos maisons, nos lieux de travail, notre famille, nos collègues, nos amis, pour nous rassembler à la fête des tabernacles prouve à Dieu votre volonté d'obéir, d'être obéissant, de vous séparer des gens de la terre, comme une démonstration que vous êtes son héritage. C'était vrai pour Israël à l'époque, c'est vrai pour nous aujourd'hui. Tout cela est merveilleux. Nous nous séparons de nos foyers. Certaines personnes ont quitté leur pays pour se rendre à la fête des tabernacles, ce qui est merveilleux, mais le verset 17 dit, c'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, offrit Isaac, et celui qui avait reçu les promesses offrit son fils unique, dont il était dit, c'est en Isaac que ta postérité sera appelée, estimant que Dieu était capable de la ressusciter même d'entre les morts. Je l'ai mentionné plus tôt. Obéir au commandement de Dieu de se rassembler pour une fête est puissant. C'est l'un des signes les plus évidents pour ceux qui nous entourent que nous avons la foi, mais la volonté d'Abraham d'obéir à Dieu et de se séparer de son fils, comme je l'ai dit plus tôt, était bien plus grande. C'était une épreuve de séparation bien plus grande en tant qu'acte d'obéissance, bien plus impressionnante et agréable à Dieu que la séparation d'Abraham de son pays. Cela a impressionné Dieu. Maintenant, combien d'entre vous ont des enfants, des petits-enfants, des nièces, des neveux? J'imagine que la plupart d'entre vous. Maintenant, qu'est-ce qui vous semblerait plus facile, que Dieu vous demande de vous séparer et d'aller à la fête des tabernacles, ou de vous séparer d'une de vos nièces, neveux ou enfants, d'une manière ou d'une autre, même au point de le sacrifier? Qu'est-ce qui serait plus facile? C'est une question rhétorique. Venez à la fête. Oh, c'est facile, mais lorsque les questions et les demandes deviennent plus difficiles, c'est là que notre christianisme est vraiment mis à l'épreuve. Ce n'est qu'un signe extérieur de notre volonté d'obéir à Dieu, mais qu'en est-il de tous les autres éléments de notre vie chrétienne? Dieu ne demande à aucun d'entre nous de sacrifier ses adorables enfants. Rappelez-vous, il n'a pas laissé Abraham aller jusqu'aux boutiques. Dieu nous demande quelque chose de sans doute plus difficile, à nous, les, voire de nous sacrifier ou de nous séparer de notre famille. Ce que je m'apprête à vous dire est difficile. Nous y viendrons dans un instant. Verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, mes frères, si la foi est une ferme assurance des choses que nous espérons, et si elle rend les choses invisibles de Dieu évidentes pour ceux qui nous entourent, si vous méditez là-dessus, si vous suivez cela, si c'est vrai, alors l'obéissance est la ferme assurance et la démonstration de la foi. Vous ne pouvez pas prouver votre foi sans obéissance. La foi en Dieu ne peut être prouvée que par des actes d'obéissance. En fait, la foi ne peut survivre sans obéissance. Jacques, chapitre 2. Quelque chose que nous connaissons tous bien, Jacques, chapitre 2. Parfois, il est très puissant de lire les versets de nos Bibles. Jacques, chapitre 2, car il y a quelque chose de plus difficile en termes de séparation en tant qu'acte d'obéissance que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Verset 14. À quoi sert-il, mes frères, qu'un homme dise qu'il a la foi, et j'ai entendu beaucoup de gens le dire, s'il n'a pas les œuvres, l'obéissance, quel autre genre d'œuvre feriez-vous? Des actes d'obéissance. La foi peut-elle le sauver? C'est le salut. C'est le sujet. Dieu connaît mon cœur, bien sûr, mais comment Jacques savait-il si quelqu'un avait la foi? Comment le savait-il? Parce que nous pouvons dire tout ce que nous voulons ou tout ce que nous voulons. La foi peut-elle le sauver? Verset 17. Ainsi, la foi sans les œuvres d'obéissance à Dieu, est morte en elle-même. 18. Oui, quelqu'un dira, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Voici ce que dit Jacques, montre-moi. Essaie de me montrer ta foi sans obéissance, et je te montrerai ma foi par mes œuvres, j'ajouterai d'obéissance. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi croient et tremblent. Combien de fois cela m'est-il venu à l'esprit, en écoutant les gens, même dans le monde, parler de leur foi, parfois à l'église? Tu fais bien. Ils croient et tremblent, les démons, mais sais-tu, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par ses œuvres, par son obéissance, lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Voyez-vous comment la foi a agi ou fonctionné avec ses œuvres, son obéissance? C'est par les œuvres que la foi a été rendue parfaite. La foi est intrinsèquement parfaite. Elle est perfectionnée par des actes d'obéissance. Il est impossible de réussir par la foi seule. Il est dit ici, au verset 23, l'Écriture s'est accomplie, qui dit, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. C'est pourquoi il fut appelé l'ami de Dieu. La différence entre être un fils ou une fille de Dieu et être appelé ami de Dieu, c'est l'obéissance. Vous voyez donc comment un homme est justifié par son obéissance et non par la foi seule. Frères et sœurs, en d'autres termes, si nous ne joignons pas le geste à la parole, cela ne compte pas. Si nous ne mettons pas en pratique l'obéissance que nous professons, cela ne compte pas. La foi est morte sans acte d'obéissance dans nos vies. Nous séparer et venir à la fête des tabernacles est un signe extérieur qui montre que nous sommes disposés à obéir à Dieu ou que nous lui prouvons que nous sommes disposés à obéir. Nous sommes justifiés par l'obéissance, et non seulement par la foi. Que demande Samuel à Saül? Nous connaissons le récit. Vous vous en souvenez? Le Seigneur prend-il autant de plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance? Avant que Saül n'ait pu dire un mot, avant qu'il n'ait pu répondre et donner une excuse, Samuel répondit, « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Lorsque les apôtres Pierre et Jean ont comparu devant le conseil à Jérusalem pour avoir guéri un mendiant boiteux, qu'est-ce que le grand prêtre Caïphe et Alexandre leur ont dit? Après s'être concertés en privé, ils ont dit, « Ne prononcez plus jamais ce nom, celui de Jésus-Christ. » Voici quelle fut la réponse de Pierre et Jean, « Jugez vous-même s'il est juste, devant Dieu, d'obéir à vous ou à Dieu. C'est à vous de juger, frères, s'il vaut mieux obéir à Dieu ou obéir aux hommes. » La séparation comme acte d'obéissance est le plus grand exemple qui prouve à Dieu que nous nous soucions de lui, que nous sommes engagés dans ce mode de vie. Jean, chapitre 1. Nous allons examiner un exemple encore plus frappant que celui que nous venons de voir. De loin, le plus grand exemple de séparation en tant qu'acte d'obéissance. En fait, nous ne pouvons pas récolter les fruits de l'obéissance à Dieu sans cet exemple, le plus grand de tous les actes de séparation. Jean, chapitre 1, verset que nous connaissons très bien, et le verset 14 s'inscrit parfaitement dans la fête, et nous verrons bientôt pourquoi. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Avez-vous compris? Ce mot si important, Abraham, Moïse, les disciples du Christ, nous n'aurions jamais pu en tirer profit si nous n'avions pas compris ce que nous venons de lire. Ce mot habiter, certains d'entre vous savent probablement ce qu'il signifie. Il signifie camper. En d'autres termes, planter une tente, ou, pourrions-nous dire, tabernacler. Le plus grand acte de séparation qui ait jamais eu lieu, qui ait jamais eu lieu, qui ait jamais eu lieu, c'est que Christ a tabernaclé parmi les hommes. Nous ne pourrions pas être assis ici si Christ n'avait pas campé ou tabernaclé parmi les hommes. S'il ne s'était pas séparé du Père. Hébreux chapitre 10, Hébreux 10, verset 5, un verset que j'aime souvent citer. Je l'ai dit à maintes reprises, Hébreux est l'un des nombreux livres de la Bible, mais c'est l'un de mes préférés. Si vous comprenez Hébreux, vous avez compris une grande partie de la pensée de Dieu à notre égard et de son plan pour l'humanité. Verset 5. C'est pourquoi, quand il vient, parlant du Christ, c'est au présent continu, quand il venait dans le monde, il a dit ce qui suit, « Tu ne veux pas de sacrifice, mais tu m'as préparé un corps, une tente, un tabernacle. » Alors il a dit, « Voici, je viens pour faire ta volonté. Je viens pour t'obéir. C'est ma mission dans la vie, t'obéir, ô Dieu. Tu n'as pas besoin du sacrifice de bœuf, de mouton ou de chèvre. Tu as besoin que quelqu'un vienne faire ta volonté. » Voici l'action physique résumée en un verset puissant, « Mes frères. » Abraham a obéi en se séparant de sa richesse, de sa stabilité, de sa famille et de ses proches. Quel exemple inspirant qu'Abraham, c'est pourquoi nous le considérons comme le père de la foi. Abraham a obéi et s'est sacrifié, il a levé son couteau sur son fils, mais Christ a obéi en se séparant de sa maison céleste. Pensez-y, de son père à sa famille. J'imagine qu'il se considère comme une famille au ciel. N'est-ce pas? Les anges qu'il a créés. Il a habité dans un corps physique et a vécu sans avoir où poser sa tête. Puis, obéissant à la volonté de Dieu, il s'est sacrifié. Il s'est séparé de la vie et a accepté la mort. Rien de ce que nous apprenons aujourd'hui, ou tout au long de la fête des tabernacles, ou d'ailleurs le reste de l'année civile, ne serait possible sans cet acte suprême d'obéissance, de séparation. Mes frères, notre vie consiste à obéir à la volonté de Dieu, point final. C'est aussi simple que cela. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas compliqué. L'obéissance nous sépare. Les vrais chrétiens doivent être séparés de ce monde. Je l'ai déjà dit, Dieu nous demande quelque chose qui est sans doute plus difficile que de venir à la fête, ou peut-être même que de sacrifier l'un de nos proches, en nous séparant d'eux. Romains, chapitre 12. Je vous ai déjà dit en gros de quoi il s'agit, à travers l'exemple du Christ. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les miséricordes de Dieu, à offrir vos corps, comme quoi? En sacrifice vivant, saint, agréable, ou des, plaisant à Dieu. C'est votre service raisonnable, dit-il. Comment? Verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Vous pouvez prouver que ce qui est bon, agréable et parfait. Quoi? La volonté de Dieu. Le christianisme de base, intellectuellement, académiquement, le christianisme hyper avancé. Je ne pense pas que les gens saisissent pleinement à quel point c'est difficile. Nous le faisons à travers une série d'actes qui nous séparent des voies de ce monde tout au long de notre vie. Terminons la lecture ici, au verset 3. Car je dis, par la grâce qui m'a été donnée, à chacun d'entre vous, de ne pas avoir de lui-même une opinion plus haute qu'il ne doit en avoir, mais d'avoir une opinion sobre, selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. Nous pourrions avoir tout ce qu'une personne charnelle pourrait jamais désirer dans ce monde, une famille, des richesses, des voitures, des maisons, tout ce que vous voulez, une famille, des êtres chers. Qui ne voudrait pas tout cela? Mais sans obéissance à Dieu, nous n'avons rien. Cela ne servira à rien. Nous ne sommes rien. Nous pouvons être quelqu'un ou quelque chose dans ce monde. Nous pouvons impressionner les gens dans ce monde, mais si nous ne sommes pas séparés, si nous ne sommes pas l'héritage spécial que Dieu veut que nous soyons, nous ne sommes en réalité rien. La fête des tabernacles nous aide à apprendre cela. Encore une fois, venir à la fête est un acte relativement facile. J'ai apprécié mon tabernacle ces derniers jours. C'était merveilleux. J'ai dit que je ne voudrais pas vivre ici parce que je pèserais environ 160 kilos. Dès que ma femme dit « Oh, je n'ai pas envie, oh, j'ai un endroit où aller, des hamburgers ou des pizzas. » Venir à la fête est facile, mes frères. Il est facile de nous séparer de cette manière. Il est facile pour beaucoup d'entre nous d'obéir à Dieu de cette manière. Avant d'aborder des questions plus difficiles, répondons à la question que j'ai posée au début de la deuxième partie. Que montre l'obéissance au monde? Je pense que vous allez trouver cela intéressant. Que montre l'obéissance au monde? Nous séparer prouve à Dieu que nous sommes disposés à être obéissants, mais que montre notre obéissance au monde? Que montre au monde la séparation en tant qu'acte d'obéissance? Qu'est-ce que le monde a désespérément besoin de voir, doit voir, et que nous sommes en fait chargés de lui montrer. Jacques 1. Jacques, chapitre 1. Encore une fois, des versets familiers, et le verset 17, tout don parfait vient d'en haut, et descend de qui? Du Père des Lumières. Combien de fois avons-nous lu cela, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation? C'est certainement un verset que nous connaissons tous. Nous avons entendu ce titre, mais je pense qu'il va prendre une signification plus grande pour certains d'entre vous, du moins. Nous pouvons voir cela d'une manière différente, d'une manière que nous n'avons jamais envisagée auparavant. Jacques fait référence à Dieu comme étant le Père des Lumières et nous dit que tout don parfait vient de lui. Eh bien, cela est extraordinairement et puissamment lié à notre appel à nous séparer par l'obéissance. Jean, chapitre 1. Revenons à Jean. Je veux insister sur ce que produit la séparation, ce qu'elle permet au monde de voir. Même ici, à la fête des tabernacles, Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Cela va prendre une signification plus grande, avec Dieu. Verset 4. En lui était la vie, et cette vie était quoi? La lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. C'était la vraie lumière, avec un L majuscule, qui éclaire tout homme qui vient dans le monde. Nous avons Dieu le Père appelé le Père de la lumière, et Christ est mentionné 4 fois par l'apôtre Jean comme étant la lumière, avec un L majuscule. Une fois au verset 7, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, 2 fois au verset 8, je crois, et 1 fois au verset 9. 4 fois, il est appelé la lumière. Ceux qui sont en Christ ont reçu la vie. Nous avons tous reçu la vie, un gage de vie éternelle, une mesure de l'Esprit de Dieu, mais pas n'importe quelle vie. Il est dit que cette vie est la lumière des hommes. Que fait la lumière? Mes frères, quelqu'un se souvient-il des tout premiers mots prononcés par Dieu et consignés dans la Bible? Quelqu'un. Genèse, chapitre 1. Ce sont les tout premiers mots prononcés par Dieu et consignés dans la Bible. Il parle depuis toute éternité, sans commencement ni fin, mais ce sont les premiers mots qui sont consignés, dans Genèse, chapitre 1. Nous arrivons ici à un point important. Cela commence exactement de la même manière que Jean 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, elle était obscure et détruite. Il en était de même au commencement, excusez-moi, la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, ce sont les premiers mots consignés du Dieu Tout-Puissant, que la lumière soit. Ce sont les tout premiers mots que nous connaissons que Dieu ait prononcés, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara. Il sépara la lumière des ténèbres. Ce mot séparé est composé de 2 mots distincts en hébreu, mes frères. Je ne sais pas si vous l'avez déjà cherché, mais le premier est Badal, B-A-W-D-A-L, D-A-L est la façon dont on l'appelle phonétiquement. Cela signifie diviser, séparer, distinguer, différencier, faire une différence. Se séparer, rompre complètement. Et oui, c'est exactement le même mot dans Lévitique 20. C'est exactement le même mot dans 1 Roi chapitre 8, prononcé par le roi Salomon. Exactement le même mot. Je vous ai séparé. Je vous ai rendu différent. Le 2e mot qui compose diviser est ban, B-A-N-E. Cela signifie une distinction, utilisée comme préposition, comme entre, comme conjugaison, parmi, au sein de. Faire une différence parmi, entre. Et frères, cette lumière en nous que Dieu nous a donnée nous sépare, nous distingue alors que nous marchons parmi d'autres qui vivent dans les ténèbres. C'est aussi simple que cela. Dieu nous a appelés à être des lumières pour le monde et veut que nos lumières brillent de mille feux, en nous séparant des voies du monde. L'obéissance est cette lumière. Notre capacité à obéir à Dieu est la lumière dont le monde a désespérément besoin, l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu nous sépare des ténèbres. Jean 8. Verset 12. Jean 8, verset 12. Nous voyons Christ s'adresser aux pharisiens qui viennent d'être pris en flagrant délit alors qu'ils tentaient de piéger Christ pour qu'il approuve leur lapidation d'une femme adultère. Verset 12. Jésus leur parla de nouveau, disant, « Je suis la lumière du monde. Je suis l'obéissance à Dieu. Celui qui me suit, celui qui m'imite, ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Jésus s'est déclaré lui-même comme étant la lumière du monde. Et beaucoup de gens liront cela en pensant que Christ décrit simplement la vie de ceux qui l'acceptent dans leur cœur. J'ai Jésus dans mon cœur. Eh bien, montrez-moi votre obéissance aux commandements et aux lois de Dieu, et je commencerai peut-être à vous croire. Celui qui m'imite, dit-il, Christ, vous pouvez le lire comme un ordre, ne marchera pas, ne doit pas marcher dans les ténèbres. Certaines personnes y voient un avantage. Je le vois comme un commandement. Si nous prétendons être le peuple de Dieu, nous ne devons pas marcher dans les voies de ce monde obscur. Nous devons nous séparer, la lumière de l'obscurité. Ainsi, en tant que lumière, nous nous séparons, nous faisons une distinction entre notre famille, nos amis, nos collègues, les uns les autres, entre. Vous vous souvenez de la définition? Nous faisons une distinction entre les voies de Dieu et les voies de ce monde, par notre façon d'agir, par notre façon de parler. Et voici ce que symbolise le fait de nous séparer de notre famille pendant 8 jours par rapport aux 357 autres jours de l'année, dans 2 Corinthiens 6, chapitre 6. Ce ne sont là que quelques exemples de situations concrètes. Nous voyons la séparation dans notre propre vie et nous permettons à ceux qui vivent dans les ténèbres de voir notre lumière, de voir comment nous brillons. Verset 14. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Que faites-vous à fréquenter autant les gens du monde dans ces circonstances? Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? La séparation. Vous pouvez lire toute la Bible, elle parle de séparation. Pas seulement 8 jours, mais tous les jours. Quel accord y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Encore une fois, la séparation. Pas seulement 8 jours, mais tous les jours de l'année. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu, nous sommes le temple de Dieu, et les idoles? Verset 17, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. C'est un ordre. Le même mot en grec, si vous voulez, pour revenir à la Genèse ou au premier livre des Rois, chapitre 8, ou au Deutéronome, chapitre 14, sortez du milieu d'eux. Faites la distinction et séparez-vous. Plutôt que de souligner deux fois, de surligner et de mettre des flèches, séparez-vous, dit le Seigneur. Et je vous recevrai et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles. Éphésiens chapitre 5. Si vous vous souvenez de la prière de Salomon, alors que nous nous tournons vers Éphésiens chapitre 5. Et de sa référence à Israël, ils sont ton peuple, ton héritage que tu as fait sortir d'Égypte. Éphésiens 5. Souvenez-vous qu'il a dit, vous êtes l'héritage de Dieu. Nous sommes l'héritage de Dieu. Verset 1, Éphésiens 5 verset 1, Paul nous met en garde contre ce qui arrivera si nous ne nous séparons pas du monde et n'obéissons pas à Dieu comme Christ. Soyez donc des disciples, des imitateurs de Dieu, pas seulement du Christ, mais de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour, comme Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous en offrande et en sacrifice à Dieu, comme un parfum de bonne odeur. Mais que l'impudicité, l'impureté, la cupidité, qui ne sont pas dignes des saints, ne soient même pas mentionnées parmi vous. Que l'obscénité, les propos insensés, les plaisanteries, qui ne conviennent pas, ne soient pas mentionnées, mais plutôt des actions de grâce. La lumière et les ténèbres. Car vous savez que nul fornicateur, nul impur, nul avare, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et j'oserais dire qu'il n'aura pas non plus l'héritage de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car à cause de ces choses vient la colère de Dieu sur les enfants de... Quoi ? La désobéissance. La séparation et l'obéissance vont de pair. Verset 7. Ne soyez donc pas leurs complices. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Frères et sœurs, la lumière repousse, réprimande et, comme il est dit ici, réprimande les ténèbres. Nous sommes appelés à être des lumières pour le monde. Que nos lumières brillent de mille feux. Comment ? Par l'obéissance et la séparation. Chaque jour, nous avons le choix. Chaque jour, nous avons le choix, comme la femme de l'eau. Nous pouvons soit continuer à nous éloigner du monde, des voies de Sodome et Gomorre, soit nous tourner à nouveau vers lui. C'est une histoire de séparation. Elle a dû faire un choix. Matthieu 5 dit que nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une colline qui ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Nous l'oublions parfois. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, non seulement le monde, mais chacun d'entre nous. Lorsque notre lumière brille, lorsque nous obéissons à Dieu individuellement, nous apportons la lumière dans la maison de Dieu. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, votre obéissance, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Premier épître de Jean, chapitre 1, verset 1. C'est en nous séparant de toutes ces choses, mes frères, que nous laissons briller notre lumière. Premier épître de Jean, chapitre 1. L'un des avantages d'être des lumières les uns pour les autres. Verset 5. Et voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous marchons dans la lumière, dans l'obéissance à Dieu, comme il est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres. Connaissez-vous les avantages d'être séparés par l'obéissance et d'être lumière ? C'est que nous sommes en communion les uns avec les autres. Lorsque vous obéissez à Dieu en étant assis ici dans cette salle, savez-vous que le simple fait d'être assis ici est un acte de communion les uns avec les autres ? C'est un acte de communion. Il existe d'autres façons d'être en communion, mais venir chaque semaine au service du sabbat, au jour saint, se réunir pour des activités sociales, c'est important parce que nous brillons d'une lumière, nous sommes en communion en obéissant à Dieu. Obéir à Dieu en venant à la fête, en nous séparant de nos familles, nous unit comme une seule famille. Je l'ai déjà dit. J'espère que vous comprenez qu'en raison de notre obéissance, nous partageons un lien très spécial que personne d'autre ne partage. Nous avons un lien d'obéissance à Dieu. Lorsque l'un d'entre nous désobéit, nous affaiblissons ce lien, car nous sommes liés par notre engagement à obéir à Dieu. Quand je désobéis, si je désobéis, et quand je désobéis, parce que nous pouvons tous tomber dans la désobéissance, j'affaiblis le lien que j'ai avec vous. Si vous désobéissez à Dieu, vous affaiblissez le lien que vous avez avec moi et avec tous les autres. Nous ne sommes pas appelés à être des exceptions. Nous sommes appelés à être unis les uns aux autres. Nous devons être les mêmes à cet égard. Ce sont des liens indestructibles. Un dernier exemple, Marc 10, car ce que je vais vous dire, et je vais le faire très rapidement, s'applique à tous les domaines de notre vie. Cela s'applique aux domaines qui sont les plus merveilleux pour nous, ceux qui nous tiennent le plus à cœur. Ce n'est pas seulement ce que je vais vous dire. Cela s'applique à tout ce qui vous est cher. Marc 10, verset 17, nous connaissons ce récit, et en préparant ce message plusieurs semaines avant de venir ici, cela m'a frappé comme un excellent exemple de séparation. Marc 10, 17, et comme il se mettait en route, c'est Christ qui sort d'un groupe auquel il enseignait, un homme accourut, se mit à genoux, c'est-à-dire qu'il tomba à genoux, et il le fit devant tout le monde, et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'est très important. Cet homme était profondément préoccupé par la mort. Même la honte de se mettre à genoux devant tout le monde n'a pas suffi à empêcher cet homme qui avait réussi à demander, « Dieu, que puis-je faire ?» ou « Christ, que puis-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Quelle humilité ! Quelle révérence et quelle crainte ! Son seul objectif était la vie éternelle. Où était-ce vraiment le cas ? Jésus est sur le point de lever le voile. Et encore une fois, cela s'applique à tous les domaines de notre vie. Verset 18, Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a personne qui soit bon, sauf Dieu. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne commettras pas de fraude. Honore ton père et ta mère. » Et il répondit, « Je sais tout cela. L'affaire est conclue. C'est presque à moi, une promesse de vie éternelle du Fils de Dieu. Maître, j'ai observé tout cela depuis ma jeunesse. » Alors Jésus, le regardant fixement, c'est ce que cela signifie, il fixa son regard sur lui, l'aima. Or, Christ n'a jamais laissé l'amour s'opposer à la volonté de Dieu, car ils sont synonymes l'un de l'autre. Ils sont inséparables. Et malheureusement, Dieu a aimé et aime beaucoup de gens qui ont failli ou qui faillissent. Que Dieu aide chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas confondre l'amour de Dieu et l'obéissance, car ils sont identiques. Vous ne pouvez pas les séparer. Continuons. Christ lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu possèdes. Sépare-toi de l'excès, des richesses, et donne tout aux pauvres. Pas à ton père, pas à ta mère, à tes frères et sœurs, ni à tes enfants, car cela vient plus loin dans le verset, vous vous souvenez ? Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit des choses qui nous tiennent le plus à cœur. Cela peut être notre père, notre mère, notre frère, notre sœur, notre nièce, notre neveu. Nous ne pouvons pas confondre l'amour que nous avons pour ces personnes avec notre rôle et notre responsabilité d'obéir à Dieu. La question est, sera-t-il un enfant d'Abraham ? C'est là la véritable question, car l'ange du Seigneur, Jésus-Christ, se tenait là, observant quelle serait sa prochaine décision. Aimez-vous votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, vos diplômes, votre CV, vos richesses? Qu'aimez-vous le plus? Obéirez-vous à ma voix comme Abraham l'a fait? Car c'est l'ange du Seigneur qui parle ici. Oui, Un homme dit qu'il a la foi. Prouvez-le. S'il vous plaît, plaisez à Dieu comme Abraham en obéissant. Verset 22. Il fut attristé par cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Car il aimait beaucoup sa famille. Il tenait à son travail et à sa réputation. Il n'a pas tout abandonné. Il n'a pas renoncé. Qu'est-ce qui était difficile? Mettre suivre? Non. Prendre sa croix? Cela ne lui posait pas de problème. Venir? Cet ordre ne lui posait pas de problème. Amasser des trésors dans le ciel? Cela ne lui posait pas de problème. Non. Renoncer à ce qui lui tenait le plus à cœur. Et il se tut. Pas un mot. Pas un son. Il se retourna et s'en alla. Vous savez quoi? Il aurait probablement passé des heures à parler avec Christ s'ils avaient parlé de porter une croix, de le suivre, d'amasser des trésors dans le ciel. Mais dès qu'il a posé cette question sur ce qui lui tenait le plus à cœur, c'est là que cela est devenu difficile. Et il est parti. Mes frères, la séparation est une partie importante du plan de Dieu. Elle l'a toujours été et le sera toujours. Et tôt ou tard, la séparation se produit. Être ici, venir ici et nous séparer pendant 8 jours ou plus pour assister à la fête des tabernacles nous aide à le comprendre. Encore un passage des Écritures, Matthieu 25. La séparation se produira tôt ou tard. Matthieu 25, verset 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Qu'avons-nous fait pour aider cette situation, frères? Que ferons-nous? Nous positionnons-nous de manière à pouvoir aider dans cette situation, car nous avons un rôle à jouer dans cette affaire, qui nous mènera à ce moment. Et lui, dit-il, Christ faisant référence au roi lui-même, les séparera, quoi? Les uns des autres, comme un berger sépare les brebis des boucs, la lumière des ténèbres. Et il mettra les brebis à sa droite, mais les boucs à sa gauche. Alors le roi, la lumière, qui est descendu du Père des Lumières, dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, des Lumières, héritez du royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Pourquoi? Pour prouver que vous êtes obéissants à travers les bonnes œuvres que vous pouvez lire dans ce récit. Et toutes les autres façons dont nous avons discuté, et toutes les façons dont je n'ai pas discuté aujourd'hui, d'être séparés, d'être une lumière. Pour que le monde voit, c'est pourquoi vous êtes des brebis. Pour que le monde voit ce qu'il avait désespérément besoin de voir. Une distinction entre la voix de Dieu et la voix du monde. Mais la séparation n'est pas complète avec les brebis. Verset 41. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, soyez séparés de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Pourquoi? Pour avoir prouvé que vous ne serez pas obéissants à Dieu à travers les bonnes œuvres qui sont décrites ici. Et toutes les façons dont nous avons parlé, et toutes les façons dont je n'ai pas parlé. Pour ne pas avoir fait de distinction claire entre les voies de Dieu et les voies du monde. Maintenant, la séparation n'est pas seulement complète, elle est éternelle. Tant pour les brebis que pour les boucs. Mes frères, la fête des tabernacles revêt une signification particulière pour nous. En nous éloignant physiquement de nos foyers, de nos familles, de nos amis et de notre travail pour assister ensemble à cette fête, nous prouvons à Dieu notre volonté de lui obéir. Cela prouve que nous sommes une lumière, tout comme Christ. Nous montrons au monde ce dont il a désespérément besoin de voir. J'aime venir ici le matin, vers 9h30, et repartir vers 12h30, en costume cravate, alors que je vois les baskets, les t-shirts, les shorts et les gens qui nous regardent, sans savoir que je ne fais pas cela toute la journée. J'enfile mes baskets, mon pantalon et tout le reste, et je ressemble à tout le monde. Mais pendant cette période entre 9h30 et 12h30, et avant cela, et au moment où nous repartons, nous brillons de mille feux dans nos costumes, nos cravates et nos robes. Je me sens vraiment à l'aise de marcher là-bas avec mes mallettes, de leur dire bonjour, et ils regardent, HMM. Laisser nos lumières, nos vies, différencier les voix de Dieu de celles de Satan et du monde. En fin de compte, la séparation se produit d'une manière ou d'une autre. Ceux qui refusent de se séparer, vous vous souvenez des paroles de la Genèse? Ceux qui refusent de se séparer de Dieu pendant leur vie, car avec Dieu tout est possible, seront séparés de Dieu et de son royaume pour toujours. Demandez-vous, car je me le demande aussi, quand je rentrerai chez moi, quand je retournerai auprès de ma famille et de mes amis, est-ce que je resterai séparé et laisserai ma lumière briller? Est-ce que je laisserai ma lumière être vue par tous,